sérieuse. La paralysie de l'administration américaine en est à une 23e journée. Mmh. Un record dans l'histoire des États-Unis. Cause, conséquence et plus avec Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière. Prof Arsenault, bonjour.
Bonjour, Marc-Raphaël.
Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien, là, parce que c'est quand même un enjeu qui est complexe, que cette paralysie de l'administration américaine. Qu'est-ce qui a causé à la base ce chaos administratif-là?
Ben, cette impasse budgétaire, ce qu'on appelle aux États-Unis le shutdown, c'est essentiellement l'incapacité du Congrès américain et du président américain à s'entendre sur l'adoption du budget de fonctionnement du gouvernement fédéral avant l'échéance. Alors, le 22 décembre dernier, c'était la date limite pour que le Congrès et le président s'entendent sur le budget. Ça n'a pas été fait. Ce qui fait que, dans ce genre de situation-là, lorsqu'il y a incapacité pour le président et le Congrès de s'entendre, ben, on décrète tout simplement la fermeture de l'administration américaine. Et c'est important de le préciser, Paul Raphaël, dans le cas qui nous occupe actuellement, c'est pas une fermeture complète de l'administration américaine. Ce shutdown dont on parle, cette impasse budgétaire, elle touche à peu près le quart des activités gouvernementales aux États-Unis. Il y a à peu près aux États-Unis 800 000 fonctionnaires qui sont touchés sur un total d'à peu près 4 millions de fonctionnaires aux États-Unis. Donc, c'est une partie de l'administration américaine qui est bloquée, mais c'est quand même une partie importante, là. On parle notamment du département de la sécurité intérieure. Alors, tous ceux qui sont chargés de protéger, par exemple, l'espace aérien, les douanes aux frontières, les contrôles, les cours d'eau, le commerce, la justice, les transports. Au total, donc, il y a à peu près le quart de l'activité américaine gouvernementale qui est paralysée depuis le 22 décembre. Et tu l'as dit, c'est un nouveau record. Ça fait 23 jours maintenant qu'il y a paralysie partielle et ça bat le record de 21 jours qui avait été établi en 1995-96 sous le mandat à l'époque de Bill Clinton.
Oui, c'est ça. C'est pas la première fois que l'administration américaine est en shutdown. 95-96, ça n'avait pas rapport avec l'arrivée des Nordiques au Colorado, ça. Rassurez-moi, professeur.
Ben, non, absolument rien à voir avec ça. Ça avait par contre avec avoir l'arrivée, notamment au Congrès, des Républicains en force qui avaient repris la majorité des deux chambres et notamment l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Newt Gingrich. T'as probablement, Paul Raphaël, entendu parler de ce bonhomme-là qui, dans les années 1990, était l'espèce d'étoile montante du Parti républicain. C'était un ultra-conservateur, très ambitieux également. Et il avait décidé à ce moment-là, lui, de prendre prétexte de l'adoption du budget pour décider de mettre des bâtons dans les roues à Bill Clinton. Gingrich et ses ultra-conservateurs républicains étaient arrivés au pouvoir en faisant la promotion, par exemple, de la réduction du déficit fédéral, de coupures budgétaires. On voulait réduire notamment la couverture d'assurance médicale, tailler dans les dépenses de protection sociale. Et c'est là-dessus que ça avait clashé, si tu me permets l'expression, entre les républicains et Clinton, et ça avait duré 21 jours. Finalement, à cette époque-là, ça s'était réglé parce que les sondages nous montraient que les Américains rendaient les Républicains, et notamment Newt Gingrich, responsables de la situation, parce que Gingrich était comme un peu tiré dans les pieds. Il avait déclaré en entrevue que finalement, lors d'un vol à bord d'Air Force One avec le président Clinton, il s'était offusqué du fait que Clinton ne lui ait pas adressé la parole, et que ça aurait été une bonne occasion justement de régler le différend sur le budget, mais que Clinton l'avait snobé, etc. Donc, en conséquence, lui, il était décidé à maintenir le shutdown. Les Américains n'avaient pas trop apprécié, avaient considéré Gingrich comme étant une espèce de bébé gâté, un peu prétentieux et hautain. Alors, finalement, il avait été obligé de céder et Clinton avait remporté cette bataille-là en 95-96.
Et pour revenir donc à la situation actuelle, avec le caractère qu'on connaît à Donald Trump, est-ce que vous voyez, professeur Snow, une issue à ce conflit-là autre que... l'issue où c'est les démocrates qui flanchent et qui font passer le projet de mur à la frontière du Mexique?
Sincèrement, Paul Raphaël, dans ma boule de cristal là, que j'ai polie juste avant de nous présenter en ondes ce matin, je ne vois absolument aucun règlement possible. Et c'est ça, je pense, la situation très particulière de ce shutdown cette fois-ci. C'est contrairement à d'autres shutdowns passés, parce que c'est arrivé souvent dans l'histoire américaine. Depuis les années 1970, c'est arrivé une vingtaine de reprises qu'il y a eu une impasse budgétaire, donc un arrêt partiel ou complet des activités gouvernementales. Mais dans ce cas-là, c'est la seule fois où on ne voit absolument aucune lueur à l'horizon. Il n'y a aucun espoir. Chaque parti est campé sur ses positions et on n'a pas l'impression de voir un compromis se dessiner. Parce que généralement, lorsque ce genre de situation-là survenait dans le passé, tu disais à un moment donné, bon, chacun met un peu d'eau dans son vin, puis on réussit à trouver un terrain d'entente, puis un compromis qui se dessine. Là, cette fois-ci, nada, niet, absolument rien. Donald Trump, parce que c'est l'objet du litige, Donald Trump tient absolument à avoir un 5,7 milliards de dollars pour construire son mur. Les démocrates sont opposés à cette mesure. mesures-là. Le mur, eux autres, c'est coûteux, c'est inefficace, c'est même immoral. Alors, il y a absolument aucun rapprochement possible. Et on l'a vu, là, il y a eu toutes sortes de rencontres au cours des derniers jours, même ça avait débuté pendant la période des fêtes, mais c'est un dialogue de sourds. Chacun est enfermé dans ses positions. Et là, c'est pour chacun des deux camps, c'est de ne pas perdre la face. Parce que nécessairement, si tu négocies un compromis, ça veut dire que tu lâches du lest, que tu cèdes quelque chose à l'autre partie. Mais là, les deux camps sont carrément les deux pieds dans le ciment dans leur position. Ouais. Et pour ne pas perdre la face, Trump face à son électorat, les démocrates face aux leurs, puis surtout qu'ils viennent là de remporter la majorité à la Chambre des représentants. Alors, chacun est campé sur ses positions. Il n'y a pas d'issue envisageable à très court terme.
Mais qui a le plus à perdre dans ce conflit-là? Parce que moi, à la base, je me suis dit, ben, c'est évident que c'est Donald Trump parce que l'administration publique est complètement jammée. Donc, c'est celui qui est à la tête de l'État qui va mal paraître. Mais il y a certains analystes qui disent non, parce que si l'État continue de fonctionner malgré le shutdown partiel, il y a des républicains qui disent et qui prétendent que justement il y a trop de fonctionnaires puis qu'on pourrait couper dans l'État, ben qui vont dire regardez, le pays fonctionne quand même s'il y a 800 000 fonctionnaires de moins. Alors donc c'est pas nécessairement Trump qui a le plus à perdre là-dedans.
En fait, chacun des deux camps a des plumes à perdre dans cette issue-là. Donald Trump, dans un certain sens, parce que les sondages nous montrent actuellement que les Américains ont l'impression que c'est plus Trump qui est la cause de ce shutdown-là que les démocrates. Mais les démocrates ont aussi beaucoup à perdre, parce que à trop vouloir s'opposer au président américain, qui, rappelons-le, a été dûment élu par la population américaine, quelque part, ça revient à y mettre des bâtons dans les roues, et ça pourrait mal passer auprès d'une partie de l'électorat. Et notamment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas d'essayer de convaincre les partis avoués, des fans finis de Donald Trump. Eux autres, Donald Trump, ils vont toujours le supporter. Ouais. De l'autre côté, la même chose. Ceux qui détestent, qui haïssent Trump, qui se réveillent la nuit pour le détester et tout ça, ces gens-là, ils sont campés dans leur position, il n'y a rien à changer. C'est l'électorat qui est plus au centre. Les gens qui sont un peu plus indécis, disons ça comme ça, c'est eux qu'il va falloir convaincre. Et c'est eux qui vont faire la différence. Et là, dans le fond, c'est une bataille d'image publique, à savoir de quel sens ça va pencher. Je me permets d'attirer ton attention également sur une autre chose, Paul Raphaël, c'est qu'on dit oui, il y a 800 000 fonctionnaires qui sont pas là aux États-Unis, puis pourtant l'administration fonctionne encore. Et il faut être prudent avec ça parce qu'il y a effectivement certains pans de l'administration américaine qui actuellement sont paralysés. Et il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, notamment au niveau des douanes, les contrôles aux frontières. Actuellement, il y a de ces 800 000 fonctionnaires touchés par le shutdown, il y en a 400 000 aux environs qui doivent travailler sans être payés. Absolument. Et ces gens-là commencent à rencontrer des problèmes très personnels. Alors, c'est payer le logement, payer l'hypothèque, payer les affaires. Il y a des fonctionnaires qui se trouvent mal pris. Et d'autre part, aux frontières, le syndicat faisait une sortie la semaine dernière en disant il y a des employés qui sont épuisés, on leur force à faire des heures supplémentaires parce qu'on manque de monde, le taux d'absentéisme augmente, et il y a des gens qui se mettent à penser que est-ce que ça pourrait pas entraîner des risques sur la sécurité des États-Unis, justement parce qu'aux frontières, des fois, la surveillance sera un petit peu moins grande. Alors, il faut être prudent avec ça, il y a des effets directs de ce shutdown sur l'administration américaine.
Et c'est quand même étonnant que le président Trump ne s'adresse pas à ces 800 000 personnes-là, il fait comme si, en fait, il met ça sur le dos des démocrates, il dit c'est aux démocrates de mettre de l'eau dans leur vin, mais ils ne s'adressent pas à ces 800 000 personnes. Et probablement que dans ces 800 000, il y en a une gang qui ont voté pour Trump aussi.
C'est très intéressant ce que tu dis là, Isabelle, parce que dans le discours de Donald Trump, tu sais, il dit, moi, je suis sûr que les 800 000 fonctionnaires qui sont dans cette situation-là comprennent ma situation, ils me soutiennent, ils m'appuient et ils appuient le mur. Et pas sûr. Parce qu'on se rend compte de plus en plus, puis vous avez probablement vu des extraits du message à la Nation. La semaine dernière, Donald Trump avait mobilisé toutes les télévisions aux États-Unis pour une adresse, 21h, c'est une heure solennelle, pendant 10 minutes. Et on a analysé, décortiqué son discours et on s'est dit, il en a montré bien peu d'empathie envers ces 800 000 fonctionnaires qui, pour certains, sont à la maison puis sans revenus, d'autres qui sont forcés de travailler sans être payés. Et il y a certains qui disent que ces 800 000 fonctionnaires-là, que Trump pense peut-être avoir de son côté en disant « mon combat est juste », peut-être que, justement, cet appui-là, il l'a pas véritablement. Moi, j'entendais des témoignages de gens au cours des derniers jours, des dernières heures, qui disaient « là, un instant, là, ça va faire, c'est beau ». Il y a eu des manifestations à Washington pour demander qu'on mette fin à cette situation-là. Alors, si chacun a sa responsabilité, les démocrate comme le président, il n'en reste pas moins une chose, c'est que des fois, Donald Trump a semblé montrer assez peu d'empathie, effectivement, pour ses fonctionnaires qui sont au chômage technique.
En terminant, professeur Snow, il y a la solution de l'urgence nationale qui a plané cette semaine. En quoi ça consiste exactement de déclarer l'urgence nationale?
Ben, essentiellement, c'est que le Congrès a, chaque année, le Congrès débloque des fonds pour permettre aux autorités, en cas de catastrophe naturelle, par exemple, d'engager immédiatement les fonds, sans avoir à attendre l'approbation du Congrès, puis ça prend du temps. Donc, c'est comme une espèce de fast track, donc, de mesure accélérée. L'argent est disponible, et en situation d'urgence, à partir du moment où on décrète l'état d'urgence, on peut engager ces fonds-là, notamment pour la reconstruction, l'aide aux sinistrés, etc. Okay. Et ce que dit Donald Trump, en fait, c'est l'une des solutions qui a été avancée pour sortir de l'impasse, pour qu'il puisse obtenir son 5,7 milliards dont il a besoin pour construire son mur, c'est de dire, ben, à ce moment-là, on va décréter un état d'urgence. Donald Trump est convaincu qu'il y a une crise humanitaire actuellement à la frontière, une crise sécuritaire avec l'afflux de ces migrants. Alors, en décrétant l'état d'urgence, ça lui permettrait donc de s'approprier une partie des fonds fédéraux qui sont dédiés aux catastrophes naturelles, justement pour financer ce mur-là. Mmh. Sauf qu'il y a des gens qui disent que c'est une manœuvre qui peut être risquée, parce que légalement, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Sauf que politiquement, ça pourrait être très mal vu pour Donald Trump, parce que c'est de l'argent qui a été promis pour les sinistrés. On pense à Porto Rico, les victimes des ouragans aux États-Unis, en Floride, puis les feux en Californie. Alors tu dis, c'est prendre cet argent-là pour construire le mur, peut-être que dans l'opinion publique, ça paraîtrait assez mal.
Ça pourrait coûter des votes. Merci, professeur Sonneau, pour votre temps ce matin.
C'est toujours un plaisir. Bonne journée à tous.
Éric Arsenault, professeur d'actualité au Cégep de Jonquière. Toujours fort intéressant.
Toujours.